rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Graphite et adeptes des bibliothèques de Compiègne. Bienvenue dans cette première émission de l'année 2025. Nous vous souhaitons tout d'abord une bonne année, pleine de culture, avec de belles musiques, de bons films, de bons livres et des jeux amusants. Et c'est plutôt bien engagé, puisque si vous nous écoutez jusqu'au bout, c'est que vous allez découvrir nos derniers conseils pour vibrer, réfléchir, vous émouvoir et rire aussi. Sans plus attendre, souhaitons la bienvenue à mes collègues chroniqueurs et chroniqueuses. Amy, tu vas nous parler de...
Alors je vais vous parler un petit peu d'un univers du domaine de l'espionnage avec Argyle de Matthew Vaughan. Et également avec un autre ouvrage, mais plutôt dans le cadre mythologique, Arche conspirateur de Véronica Ross.
Merci. Et Aurore, qu'est-ce que tu as aimé, toi ?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un jeu de dés qui s'appelle Quix et aussi d'un roman graphique, Les guerres de Lucas.
Super. Et Willy, vous allez nous parler de quelque chose de très, très nouveau.
Nouveau et très ancien à la fois, puisqu'il s'agit de l'entrée de Howard Phillips Lovecraft dans la prestigieuse collection de la Pléiade de Gallimard.
Et pour ma part, j'ai adoré deux livres que j'ai très envie de partager avec vous. Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques de Ian Levison et Nos armes de Marion Brunet. Et j'ajouterai un très bon film que nous venons de recevoir en DVD, The Backriders de Jeff Nichols. Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques. C'est toujours un grand plaisir de retrouver Ian Levison, cet écrivain américain d'origine écossaise dont j'avais adoré les savoureux Un petit boulot, Pour service rendu et Un voisin trop discret. Dans ce nouveau roman, notre héros est Justin Sykes, avocat au bureau d'aide juridictionnelle de la ville de Philadelphie. Il est commis d'office. Il défend des accusés qui n'ont pas les moyens de s'offrir un ténor du barreau. Il le fait même consciencieusement, même s'il est mal payé pour toutes les heures travaillées ou il croule sous les dossiers, faisant de son mieux pour réduire les peines ou faire acquitter ses clients. Et un beau jour, Marcus, patron d'une boîte de striptease d'une zone industrielle assez glauque, lui fait une étonnante proposition. De se rendre chaque jeudi dans son club pour dispenser des conseils juridiques aux danseuses qui le souhaiteraient. Entre 17 et 18 heures, pas une minute de plus. Ensuite, il est tenu de passer la nuit au motel juste en face, également propriété du dit Marcus. Tout ça pour la somme de 1000 dollars par semaine. C'est étrange, il se dit bien qu'il y a anguille sous roche. Mais il ne voit pas ce qui peut être répréhensible dans cette mission, et une telle somme ne se refuse pas, donc il accepte. Mais au bout de quelques semaines, même s'il promulgue effectivement quelques conseils juridiques entre deux effeuillages, il s'interroge sur les personnes qu'il croise et sur cette injonction de se garer toujours au même endroit devant sa chambre. On s'amuse beaucoup des mésaventures de cet avocat réfléchi et pertinent, mais un brin naïf, qui met du temps à découvrir qu'il a été embauché pour toute autre chose en fait, et va se retrouver embringué dans une histoire tordue de malfrats, de policiers véreux et de procureurs ambitieux, mais incompétents, très risibles. L'intrigue sert habilement de prétexte pour dénoncer les travers du système juridique américain, le racisme endémique et les absurdités, au mépris de toute logique. Le narrateur rigeonne des injustes aberrations, quand les peines se négocient sans procès entre avocats et procureurs, quand lors d'un procès, un habit élégant ou séduisant du prévenu ou de son témoin peut réduire une peine de plusieurs années, ou quand une loi n'applique pas les mêmes obligations que dans l'État qui est juste à côté, et l'incongruité notamment qui fait qu'une fille assez âgée pour se marier et être embauchée comme stripteaseuse n'a pas le droit de boire une bière car elle n'a pas 21 ans. L'auteur a cette capacité si plaisante à stigmatiser les aberrations sociales ou politiques et les mauvais penchants humains, tout en maintenant une suffisante dose d'espoir et d'empathie pour ne pas être trop sombre. Et nulle démagogie ni leçon de morale chez Ian Levison. D'ailleurs, c'est délicieusement immoral, caustique, mordant, avec un sens délicat de l'ironie et de l'autodérision, drôle et efficace, avec une grande qualité d'écriture, limpide, d'une désinvolture jubilatoire, capable autant de divertir que d'éclairer. C'est une savoureuse combinaison d'études de mœurs et de polar. On va parler d'un film dans le mode humour et action aussi. On va écouter la bande-annonce de Argyle.
Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère.
Il n'y a qu'une façon de le savoir.
ne sommes pas si différents, vous et moi, agent Argyle.
Un coup de main, une seconde.
Le roman est sensationnel, ma chérie, mais...
C'est quoi la suite? Ça s'appelle un cliffhanger, maman?
Non, Ellie, ça s'appelle se débiner.
Donc je vais vous parler effectivement alors, du film, mais aussi à la fois du roman éponyme, puisque c'est par le biais du roman que j'en suis venue à ce film, qui a d'ailleurs été déjà diffusé en avant-première en France, mais qui sortira dans toutes les salles le 31 janvier 2025. Et c'est un long-métrage réalisé par le Britannique Matthew Vaughan. Ce long-métrage captivant est adapté donc du roman éponyme, qui met en vedette Dua Lipa, Henry Cavill et un chat attachant nommé Chip, qui joue un rôle clé dans l'histoire. Dans une esthétique rétro marquée par des graphismes saisissants et une bande-son incluant des morceaux allant aussi donc de Barry White aux Beatles, Argyle est un vrai régal visuel. Le casting étoilé réunit également Samuel L. Jackson, Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard. Il est réellement inspiré d'un roman, d'une auteure alors encore aujourd'hui inconnue, donc qui s'appelle Ellie Conway. Alors beaucoup prétendent encore aujourd'hui que Taylor Swift en serait la véritable auteure, alors sait-on jamais, rien n'est moins sûr. Et dans le film, Ellie Conway, donc une auteure introvertie, reconnue pour ses intrigues d'espionnage, est sur le point de terminer son cinquième roman, qui est centré sur Aubrey Argyle. Alors malheureusement, elle est frappée par le syndrome de la page blanche, et pour retrouver l'inspiration, elle décide de rendre visite à ses parents en prenant le train. Alors, au cours de son voyage, des agents mystérieux l'attaquent, mais elle est sauvée in extremis par Aidan Wilde, un espion énigmatique qui ressemble étrangement à son héros fictif, Argyle. Aidan l'informe qu'une organisation corrompue, connue sous le nom de la Division, la surveille. Et en fait, ses livres semblent apparemment anticiper l'avenir. Donc, il voyage en Angleterre, où Aidan espère que le prochain chapitre qu'elle écrira les conduira à la clé maîtresse, une clé USB cachée dans une balle d'argent, contenant des informations essentielles pour anéantir la Division. Alors cette aventure pourrait bien être la source d'une inspiration inespérée pour Ellie, mais ça en est principalement un film parodique qui offre une série d'aventures rocambolesques, donc à travers les États-Unis, la Grèce, la France, l'Angleterre, accompagnées de combats chorégraphiés et d'un réseau d'espions mystérieux. En effet, la fin du roman est plutôt un retournement de situation assez inattendu, que je ne vous révèle pas pour des questions évidentes de suspense. Tout du moins, je peux vous révéler sans souci que durant la scène du générique du film, générique de la fin du film, prenant lieu 20 ans plus tôt, le jeune Argyle se révèle être un agent de Kingsman. Donc pour les amateurs de la franchise Kingsman, sachez que Argyle a des liens avec cette franchise du même réalisateur Matthew Vaughan. Et je tenais aussi à préciser parce que l'adaptation a pu susciter des critiques, notamment parce qu'il semble s'inspirer, alors je pense comme un hommage, du film Le Magnifique réalisé par Philippe de Broca en 1973 avec Jean-Paul Belmondo. Alors malgré cela, il m'a paru plutôt efficace et souvent amusant à suivre. Donc à vous bien évidemment de vous faire votre propre avis sur ce film et roman éponyme. Ainsi, donc, le livre Argyle d'Ellie Conway est disponible en anglais pour ceux qui souhaitent se plonger dans cet univers à la bibliothèque Saint-Corneille.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, on va passer à un tout autre sujet. Une sorte de mini-révolution. H.P. Lovecraft a fait son entrée en octobre dernier dans la prestigieuse collection Pléiade de Gallimard. Alors, vous savez, la Pléiade, hein, sont ces livres reliés à leur fin, avec des belles jaquettes en cuir, etc. Et donc, un auteur de littérature populaire qui fait son entrée dans la Pléiade, c'est quand même pas banal. Donc Lovecraft, hein, pour la petite histoire, c'est cet auteur américain. Il est né à la fin du 19e siècle. Il est mort en 1937 à Providence, Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre, où il a passé la majeure partie de sa vie. Alors, il est aujourd'hui considéré comme un maître du récit fantastique ou d'horreur, à l'égal d'un Edgar Allan Poe. Et plus près de nous, celui qui lui ressemble sans doute le plus, c'est Stephen King, surtout au début de sa carrière, me semble-t-il. Toute l'œuvre de Lovecraft, c'est très compliqué et simple à la fois, elle s'inscrit dans un rejet total du monde moderne. C'est quelqu'un qui est un conservateur, un misanthrope pur et dur, qui est parfois aussi à la limite du racisme, il faut bien le dire. Et par contre, c'est un écrivain absolument gigantesque. Alors parmi ses romans les plus célèbres ou ses œuvres les plus célèbres, ses nouvelles, on trouve Les montagnes hallucinées, L'affaire Charles Dexter Ward, La couleur tombée du ciel, Le cauchemar d'Innsmouth, La maison de la sorcière, L'abomination de Dunwich. Tous ses écrits s'articulent autour de ce qu'on a appelé plus tard le mythe de Cthulhu. Alors l'expression n'est pas de Lovecraft lui-même, mais de l'un de ses amis et disciples qui était Auguste Derleth. Donc c'est un univers étendu qui a été créé de toutes pièces par Lovecraft. Alors pour faire court, Lovecraft pense qu'il y a des millions d'années, la Terre était dominée par une race extraterrestre, qu'il appelle les Grands Anciens, et qui ont disparu. Mais il ne rêve que d'une chose, régner et revenir à nouveau sur notre monde. Les histoires de Lovecraft gravitent souvent autour de jeunes chercheurs férus de sciences occultes qui ont une hérédité trouble, corrompue, souillée, et qui vont déchaîner l'enfer en réveillant ces créatures terrifiantes, millénaires, provisoirement assoupies dans les limbes, dans une autre dimension ou au fond des océans, en leur ouvrant un portail sur notre monde à l'aide d'incantations, de formules, de pratiques démoniaques ou de rites innommables ou impies. Ce qui, bien entendu, ne manquera pas de rendre fou ou de précipiter la perte des intéressés. Alors ainsi, donc ce qui est fascinant chez Lovecraft, hein, c'est qu'il fait souvent une description quasi, on va dire, clinique ou scientifique des créatures monstrueuses qu'il va décrire. Mais son univers, en même temps, reste globalement très littéraire, très très flou dans ses évocations. Par exemple, dans La peur qui rôde, il écrit « L'ombre que je voyais de cette cheminée n'était ni celle de George Bennett, ni celle d'aucune créature humaine, mais une anomalie prodigieuse. » Un blasphème vivant, sorti du fond de l'enfer, une abomination sans forme et sans nom, que l'esprit se refuse à concevoir et que la plume est impuissante à écrire. Voilà, ça c'est typique du style de Lovecraft. Donc Lovecraft, on a essayé parfois de l'adapter au cinéma. Donc c'est toujours compliqué d'adapter Lovecraft. Alors il y a Guillermo del Toro qui s'y est collé par un moment, il voulait adapter Les montagnes hallucinées, mais le projet n'a pas abouti. On a... Stuart Gordon, qui dans les années 80 a réalisé Reanimator, une espèce de petit film de série B assez drôle et qui est vraiment très évocateur de l'univers de Lovecraft. Et puis évidemment John Carpenter avec L'Antre de la Folie. Et Roger Corman aussi dans les années 60 qui avait réalisé La Malédiction d'Arkham. Alors ce qui est intéressant chez Lovecraft, pour en finir, c'est qu'il y a souvent ce livre qui revient sans arrêt dans son œuvre. Donc il y a ce grimoire terrifiant. C'est le fameux Necronomicon. Dont un exemplaire serait détenu, bien caché, à l'université de Miskatonic. Alors, cette université n'existe pas, évidemment, tout à fait. Donc ce recueil, il a été écrit par un arabe, un arabe fou, un poète qui s'appelait Abdul Al-Azred, et contiendrait des secrets, des incantations qui peuvent rendre fous tous ceux qui vont les lire. Ce qui ne manque pas d'arriver, évidemment, car l'insatiable curiosité humaine est toujours la plus forte. Alors, moi, j'ai cherché ce livre désespérément dans les collections de la bibliothèque, dans les collections anciennes. Je ne le trouve pas, pardon. Mais peut-être est-il caché sous les voûtes ou le puits du cellier. Donc, je vous préviens, tremblez, terriens.
Merci, Willy. Écoute, je vais passer sur un domaine proche, qui est proche de la science-fiction en tout cas, avec le roman graphique Les guerres de Lucas. Alors il faut dire que j'ai eu la chance, juste avant les fêtes, de gagner un concours Instagram. Je le dis parce que ça m'arrive tellement peu souvent déjà de participer à des concours, encore moins de gagner des trucs. J'étais vraiment ultra méga contente. Les éditions de Mans donc, m'ont envoyé un exemplaire dédicacé du roman graphique Les guerres de Lucas, assorti de deux marque-pages très Star Warsien. Pour moi, qui suis du coup fan, c'était un super cadeau. Et avant de le recevoir, pendant les fêtes, j'ai découvert cet ouvrage à la bibliothèque. C'est une des collègues bibliothécaires qui me l'a conseillé. Et entre autres parce que je suis fan de la saga, mais aussi... moi, personnellement, je pense que son public ne s'arrête pas là, loin de là. Alors, Les guerres de Lucas, c'est un roman graphique qui met en scène les nombreux défis que George Lucas a dû surmonter pour donner vie à la saga Star Wars. Si aujourd'hui, on parle de lui comme du visionnaire de son époque, il faut savoir que George Lucas n'a pas démérité pour en arriver là. Hein. Il est un peu l'enfant rebelle d'Hollywood. Le génie maintes fois contrarié, mais il n'a jamais lâché l'affaire, jamais abandonné son projet jusqu'à ce qu'il devienne la réalité que nous en connaissons. Et encore, George Lucas ne prétendait même pas faire de Star Wars une saga. S'il arrivait déjà à en faire un film, ça aurait déjà été une véritable apothéose pour lui. On comprend alors que depuis, il a fait du chemin pour nous livrer cette mythologie moderne. Donc évidemment, ce roman s'adresse aux fans de Star Wars, mais aussi à tous ceux qui ont envie de découvrir les coulisses d'Hollywood des années 70. Les Guerres de Lucas, c'est un roman graphique, ça se diffère de la BD par son volume, puisqu'il contient presque 200 pages, mais bon, grosso modo, c'est une grosse BD. Et c'est le scénariste Laurent Hopman qui m'a dédié ses livres, c'est aussi illustré par Renaud Roche. Alors moi, de base, je suis pas très fan de BD, mais c'est tellement facile à lire, plein de rebondissements, que je crois pas avoir lâché l'ouvrage avant la fin, une fois que j'avais mis le nez dedans, quoi. Ce format, je trouve qu'il nous emporte, il nous ouvre vers une aventure formidable dans le cœur du cinéma et s'adresse vraiment à un large public. Et si dans le roman on découvre la destinée incroyable et contrariée que George Lucas a traversée pour devenir le réalisateur de folie qu'il est, et bien derrière lui se cachent bien d'autres destins encore. Celui d'Harrison Ford, par exemple, je le pose là comme ça parce que, en vrai, je crois que c'est mon acteur préféré. Et il a une carrière incroyable, mais en réalité, le cinéma lui est plutôt tombé dessus tout à fait par hasard. Et c'est fou comme la vie nous mène exactement où on doit aller parfois. Et d'autres fois, eh bien, le chemin n'est pas si simple. Et c'est là tout l'intérêt de ce roman qui est dédié, je cite, à George Lucas et à tous les rêveurs qui n'abandonnent pas. D'ailleurs, les créateurs de l'ouvrage n'ont pas abandonné eux non plus, puisque j'ai vu sur le compte Insta de la maison d'édition une photo de George Lucas avec le roman graphique à la main. Ils ont donc réussi à faire parvenir un exemplaire de leur livre à leur héros, et je trouve ça beau. Donc à la star de la saga mythique, ce roman est « To be continued ». Et oui, il y aura une suite, et je vous avoue, j'ai très hâte de la lire.
Suivant. On va écouter un titre qui accompagne merveilleusement la lecture du roman que je vais vous présenter ensuite, While the Wild Rose Grows, de Nick Cave et Kylie Minogue. Il s'agit d'une ballade meurtrière qui raconte l'histoire tragique d'Eliza Day, une jeune femme séduite puis tuée par son amant. La beauté éphémère des roses sauvages symbolise à la fois l'amour et la mort, soulignant la fragilité de la vie et la fatalité de la tragédie. Et elle crée une atmosphère sombre et poétique.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
The second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the
showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza.
Vous êtes au rendez-vous culture des bibliothèques. Je vais vous parler d'un roman que j'ai beaucoup aimé, Nos armes de Marion Brunet. C'est son troisième roman après L'été circulaire et Vanda. Nos armes dresse le portrait d'une jeunesse en colère qui dérape. Il nous plonge dans l'univers des militants de l'ultra-gauche des années 90. Et il raconte sur 25 ans le destin de Mano et Axel, deux jeunes femmes en quête d'amour et de justice, et de leurs amis Charlie, Nasser, JC et Paola. Ils sont étudiants, travailleurs précaires ou vivant en marge de la société dans un squat, tous animés par la révolte et l'engagement. Dotés d'une conscience politique aiguë et radicale, ils sont de toutes les manifestations et n'hésitent pas à en découdre avec les groupuscules d'extrême droite ou la police. Ils sont prêts à tout pour tenter de changer le monde, y compris tomber dans la délinquance. Ainsi, à la suite d'une énième injustice, ils décident de franchir un cap en organisant un braquage afin de financer leur lutte et leurs idéaux révolutionnaires. Une arme à feu entre en jeu et d'un coup, c'est la bascule. Le hold-up vire à la tragédie. Il a suffi d'un court instant, d'un geste irréfléchi, pour que plusieurs vies soient brisées nettes. Deux décès, un des membres du groupe et un policier, deux arrestations, dont Axel. Mano, qui attendait dans la voiture, a échappé in extremis aux forces de l'ordre. Elle va essayer en vain de refaire sa vie, partagée entre deux culpabilités, celle d'être en liberté, alors qu'Axel est enfermé pour 25 ans, et celle de ne pas avoir empêché ce drame. Le roman suit le destin de ces deux jeunes femmes, liées par un amour profond que les événements ont empêché de s'épanouir. La structure chronologique utilise intelligemment les retours dans le passé et fait alterner les voix d'Axel, qui écrit une longue lettre adressée à Mano, et de Mano dans un récit à la troisième personne. L'auteur évoque ainsi admirablement le temps qui passe, inexorablement, mais n'efface rien, et parvient à signifier l'écoulement du temps qui file dans la vie de Mano et qui stagne dans la vie d'Axel. Et Axel décrit avec beaucoup de vérité l'univers carcéral, les conditions de vie quand on y est pour si longtemps, avec sa colère qui ne la quitte pas, envers l'injustice du monde, envers la société, ses parents, les flics, et envers les renoncements. J'ai été frappée et même bouleversée par l'intensité et la justesse de la narration. Nos armes est un roman poignant et percutant sur le poids des remords et la puissance dévastatrice de la culpabilité. Marion Brunet dépeint admirablement les émois, les éblouissements de la jeunesse, et elle parvient à saisir l'essence des regrets et de la solitude. C'est d'une tristesse infinie, et portée par des personnages principaux et secondaires complexes et attachants, inoubliables, avec une mention spéciale pour le grand-père d'Axel. Ils sont dépeints dans toute leur fragilité. C'est un grand roman noir qui ne peut pas laisser indifférent avec son écriture incisive, et il nous surprend jusqu'au bout. Et là où et avec une émotion qui surgit là où on ne l'attend vraiment pas. Changement de registre maintenant avec Arch Conspirator, grâce à Amy.
Alors, Véronique Roth est surtout connue pour Divergente, la série à succès de romans de science-fiction pour jeunes adultes qui se déroule dans un futur dystopique et post-apocalyptique. Donc aujourd'hui, dans sa nouvelle donc Arch Conspirator, elle y réinvente la tragédie d'Antigone de Sophocle en la plongeant dans un avenir dystopique. À travers des enjeux intenses, des relations familiales conflictuelles et des choix périlleux, l'auteur entraîne ses personnages dans des recoins sombres. Ici, les gènes des défunts sont prélevés pour sauvegarder l'humanité et conservés dans un sanctuaire appelé les archives, sans distinction de choix de vie, touchant même Œdipe et Jocaste, les parents d'Antigone. Après la mort tragique d'Œdipe et de Jocaste, le pouvoir revient à Créon, l'oncle d'Antigone, qui lui épargne la vie, ouvrant la porte à des questionnements sur la nature de la liberté. À travers des décrets et des transgressions, Antigone et Créon découvrent que certaines vérités transcendent l'amour et la stratégie, conduisant à la destruction. L'auteur réussit à moderniser ce récit classique en intégrant des thèmes contemporains tels que l'amour filial, le pouvoir, tout en permettant une immersion totale grâce à une narration à la première personne. Alors cette approche, elle favorise l'attachement au personnage, rendant la montée des tensions d'autant plus poignante. Alors je pense que le concept de cette histoire dans son ensemble est assez brillant, en transposant le monde et les personnages de la Grèce antique dans cette ville futuriste qui s'en sort à peine. Étant donné à quel point l'histoire d'Antigone est influencée par sa parenté, il est logique que la génétique soit un facteur majeur dans cette version. Néanmoins, je me demande si la perspective de Créon est vraiment pertinente ici. Pour faire simple, alors il semble penser qu'Antigone et ses frères n'ont pas d'âme, ce qui, selon lui, rend futile la conservation de leur héritage génétique. Ça me semble plutôt illogique, car ces personnages ont manifestement une certaine compréhension de la génétique. Ils sont importants. Et dans un monde aussi chaotique, avoir de l'ADN pourrait toujours avoir de l'importance, indépendamment de la question des âmes. En parlant de Créon, je trouve fascinant que l'auteur ait modifié son rôle, le transformant de frère d'Œdipe à frère de Jocaste. Cette réorientation est assez logique, car elle établit un lien plus direct entre Créon et Antigone à travers Œdipe. Et ça ajoute une touche d'intelligence à la narration. Ça nourrit le récit et ça souligne les complexités des relations familiales dans cette tragédie classique. Alors la fin de l'histoire, bien que n'étant probablement pas un spoiler, parce qu'il s'agit après tout d'une tragédie grecque antique, semble quelque peu décevante. Alors après avoir appris à connaître Antigone, on souhaite une fin différente pour elle. Mais la victoire plutôt creuse de Créon, également empreinte de chagrin et de douleur, confère une certaine complexité à la situation. Alors c'est pas que le méchant gagne, c'est que personne ne gagne vraiment. Mais en même temps, si on regarde les choses d'une certaine manière, Antigone gagne. Alors les mythes constituent un pont entre les légendes, le sacré et l'histoire, tout en maintenant une connexion indéniable avec la réalité. Donc vous avez en fait le personnage d'Antigone qui est un personnage fictif, mais elle symbolise de manière intemporelle la résistance à un pouvoir arbitraire ou injuste. Et cette valeur, elle est assez concrète, même si ça reste une création plutôt littéraire. Et vous avez aussi, alors je vous parle aussi un peu de la référence d'Antigone d'Anul, parce qu'elle devient vraiment, elle seule, une figure emblématique de la résistance, obstinée dans sa rébellion et décidée dans sa volonté de mourir plutôt que de se soumettre. Donc les mythes, bien sûr, par leur essence, sont également marqués par la répétition et la pérennité, donc ils sont continuellement, en fait, réinventés et réécrits. Et vraiment, le mythe d'Antigone, c'est une source d'inspiration pour les écrivains. Donc vous avez Schyl, Sophocle, Anul que j'ai cité, Cocteau, Racine et bien d'autres. Donc chaque nouvelle interprétation enrichit leur signification et ça permet aux générations successives de se les approprier, les réapproprier et de leur donner une nouvelle vie. Donc vous avez aussi, par ce biais-là, des réflexions sur notre humanité, la lutte contre l'injustice et les aspirations collectives. Et en examinant de près la psychologie des personnages, l'auteur, justement, Véronica Ross, propose en quelque sorte une amélioration par rapport à Sophocle, parce qu'elle nous permet de comprendre le processus de pensée et les motivations derrière les actions des personnages. Donc l'original, il expose les conflits qui menacent les institutions politiques d'une communauté, mais la psychologie des personnages n'est pas nécessairement son objectif. Et là, justement, Arche Conspirator résout ce problème en nous permettant de voir l'histoire du point de vue des personnages. Donc pour les amateurs d'Antigone, je vais faire court, et des mythes antiques, Arche Conspirator est une lecture captivante. Chaque adaptation d'un ancien mythe donc, nous permet d'explorer comment un auteur réinterprète le récit original. Et donc vraiment une connaissance d'Antigone enrichira sans doute votre expérience donc de lecture. Cependant, ceux qui ne sont pas plutôt familiers avec ces tragédies grecques pourraient trouver le contenu un peu léger. Comparé à d'autres récits de science-fiction et de fantasy, l'univers en fait, de ce livre manque un peu de développement. Mais par contre, la compréhension vraiment de l'œuvre originale peut grandement enrichir l'appréciation de cette adaptation fascinante que vous pouvez emprunter en anglais à la Bibliothèque Saint-Corneille.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Eh bien, pour ma part, je vais vous parler de Quix, qui est un jeu de dés. Alors, quand j'étais enfant, je jouais au Yams avec ma grand-mère. J'adorais ça, mais j'avoue, à part au Yams, je jouais pas à grand-chose comme jeu de dés, même jusqu'à il y a pas très longtemps. Il m'est arrivé de jouer au 4-21... Bon, je vous dirai pas dans quel cadre, mais j'ai un mal fou à me souvenir des règles déjà, donc j'y joue pas souvent. Ma sœur m'a appris un jeu que moi j'appelle le crapouille, mais je crois pas que ça s'appelle comme ça, avec 6 dés. C'est chouette, mais c'est un peu loin à démarrer, surtout si on est plus de 3 joueurs. Et c'est là que j'ai découvert Quix. Alors, c'est un jeu de dés à la fois simple et stratégique dans lequel on peut jouer même quand ce sont les autres qui tirent les dés. Donc du coup, il n'y a pas de temps de latence et ça, c'est quand même assez cool. Pour jouer, c'est simple, vous avez une grille de chiffres colorés qu'il va vous falloir cocher au fur et à mesure que le jeu avance. Chacun votre tour, vous tirez 6 dés. Il y a 2 dés blancs et 4 dés de couleurs différentes, rouge, bleu, jaune, vert, qui reprennent les lignes de votre grille. Avec ces dés, vous pouvez faire jusqu'à 2 combinaisons de nombres et cocher jusqu'à 2 numéros sur votre grille. Attention, il y a un ordre précis à respecter. Parfois, les chiffres sont croissants, parfois ils sont décroissants. Si vous sautez un chiffre, voilà, il est perdu à jamais. Donc, il faut faire bien attention. C'est là que la petite stratégie intervient. Mais le but est relativement facile. Cocher au moins 6 chiffres par ligne pour fermer la ligne et empêcher les adversaires de faire plus de points. Quand les 4 lignes colorées sont fermées sur la grille, bien le jeu s'arrête et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Jusque-là, rien de sorcier. Ce qui est cool, c'est que si c'est pas à votre tour de jouer, bah vous pouvez quand même profiter de la somme des dés blancs tirés par les autres pour compléter ou non votre grille. C'est vous qui décidez. Donc pas le temps de niaiser, tous les coups comptent pour être le premier à fermer ces lignes. Quick, c'est un mélange savant entre le yams et le loto, facile et rapide à jouer, de 2 à 5 joueurs, pratique à emporter partout aussi, surtout si vous avez la petite piste de dés souple qui se clip de l'entre-deux-mondes. Alors, je dis ça, je dis rien, je pose ça là, mais dans la valise, bim bim, ça va vite. On peut l'emporter vraiment partout. J'ai découvert ça et franchement, c'est la révolution. Les jeux de dés are the new sexy parmi les jeux de société. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Avis aux amateurs, je vous propose Quicks. Eh bien Anne, c'est toi qui vas fermer la marche aujourd'hui.
On va écouter la bande-annonce du film The Backriders de Jeff Nichols.
I've been thinking, I can't run this club forever. I built this for nothing. This is our family. You and me, kid.
From the beginning?
Yes, please.
It was the golden age of bike riders. I never felt so out of place in all my life. That's when I saw him for the first time. It took my breath away.
I'm Benny.
5 weeks later, I married him. I thought I could change him, you know? Not to be different, but to be, I don't know, like he's wild.
Hey! I told you to take that jacket off.
You'd have to kill me to get this jacket off.
What about the bar? Burn it down.
The club got real big real fast. They started running drugs, gambling, prostitution.
Is that what this club is now?
I want you to quit riding.
Don't ask that.
Benny. I need ya.
You can't have him.
If he wants to ride a bike, he'll ride a bike.
C'est le film The Backriders. Après les films Take Shelter, Mud, Loving et 8 ans d'absence, Jeff Nichols nous offre cette chronique d'un gang de motards. On est au milieu des années 60 dans un bar d'une ville du Midwest. Cathy croise Benny. Elle tombe aussitôt sous le charme de ce beau blond, comme moi d'ailleurs, qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals, dirigée par le violent et énigmatique Johnny. À l'image du pays tout entier, le groupe va changer, s'étendre et petit à petit prendre en notoriété et devenir un gang, accueillant des voyous de toutes sortes. Benny sera bientôt contraint de choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Le scénario s'inspire d'un livre de photos et de témoignages devenu culte, The Backriders, publié en 1968 par Danny Lyon. Il dressait le portrait sans concession de jeunes en marge de la société, appartenant au club de motards de Chicago. Nichols reconstitue impeccablement l'Amérique profonde des années 60. Et on va suivre l'évolution du club, en même temps que l'évolution de la relation entre Cathy et Benny, et entre Benny et les membres du groupe. Des virées sauvages en moto, avec des paysages à couper le souffle. Et en parlant de souffle, le film en a un très fort, romanesque, qui donne à son film une allure d'odyssée poétique et tragique, captivante. On peut y retrouver l'atmosphère des mythiques Easy Riders ou Rusty James, et côté roman du magnifique Nous rêvions juste de liberté d'Henry Lovenbrook. Ces blousons noirs chevauchant des motos pétardantes, mettant à l'honneur la virilité, l'honneur et la fraternité, et flirtant constamment entre liberté et criminalité, Jeff Nichols porte un regard très intéressant sur cette Amérique d'hier, ainsi que sur l'attrait envers les bad boys et la montée de la violence. Les acteurs crèvent l'écran, à commencer par la fascinante et exceptionnelle Jodie Comer, qu'on a vue déjà dans Killing Eve et The Last Duel, et aussi par le craquant Austin Butler, qu'on a vu dans Elvis et Dune 2, saisissant de charme et de virilité dans son personnage de Benny. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film, et j'espère que vous l'apprécierez aussi.
On a commencé par le regarder, ouais, ça, voilà. Ça a l'air cool.
Mais on vient de le recevoir en DVD à la bibliothèque. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cette première émission de l'année. Demain, samedi, à partir de 14h30, à la bibliothèque Saint-Corneille, vous pourrez assister à une conférence de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine de Compiègne sur les résistants dans l'Oise, une séance animée par Frédéric Gondron. Mercredi 22 janvier à 20h, la bibliothèque vous propose la projection du film La salle des profs, le film allemand d'Ilker Satak. Le samedi 25 janvier à 15h, une rencontre dédicace avec Jean Lebrun pour son livre Coco Chanel, Une vie derrière la marque. Jean Lebrun nous invite à la découverte de la vie de Coco Chanel. Samedi 25 janvier, toujours, à partir de 17h, c'est la nuit de la lecture. Et nous la fêtons à la bibliothèque Mourichon, dans le cadre des nuits de la lecture. Le groupe Les mots à voix haute vous invite à une lecture participative et gourmande, avec des lectures qui mettent à l'honneur les trésors du patrimoine culinaire.
Comment on fait pour manger et lire en même temps ?
Eh bien, il faut y aller pour voir ça.
Mais c'est intriguant, c'est intriguant.
Oui, mais c'est à savourer sans modération, en tout cas. Et on peut écouter des récits délicieux qui éveilleront vos papilles et votre imagination. Prochain rendez-vous culture à la bibliothèque, c'est le samedi 25 janvier à 11h, venez nombreux. Et notre prochaine émission sur votre radio préférée, le vendredi 28 février à 18h. Un très beau week-end.